entière. C'est du blues, du rock, du country américain, ainsi que des musiques variées.
Musée sans frontières avec Michel Giroux, c'est tous les samedis à 19h sur les ondes de CKIA FM 88.3, la radio urbaine à Québec.
Ici Félix Diotte, vous écoutez CKIA 88.3 FM à Québec et CKIAFM.org partout sur la planète.
Voisins, voisines d'ailleurs, un balado en 5 épisodes qui permet de mieux comprendre la réalité des personnes immigrantes qui ont choisi le Québec comme nouveau chez soi. À travers des témoignages touchants, empruntez l'avenue des épreuves qu'il est nécessaire d'affronter pour se créer une nouvelle vie avec patience et détermination. Produit par Spira, le balado est disponible gratuitement sur le site lesoleil.com/balado.
Bonjour, ici Aude Malaré. La mise sur pied du Conseil national de réconciliation, ou CNR, est l'une des mesures prises par le gouvernement du Canada pour promouvoir la réconciliation. Selon Relations couronne autochtone et Affaires du Nord-Canada, il s'agit d'une priorité claire des partenaires autochtones. C'est pourquoi le mandat de base du CNR sera de veiller à ce que le gouvernement s'acquitte de sa responsabilité de réconciliation avec les peuples autochtones. À la suite de la réunion inaugurale en décembre dernier, le ministre des Relations couronne autochtone a annoncé qu'un comité de transition dirigé par des autochtones a été mis sur pied. Le comité a déjà commencé ses travaux et prendra contact avec différents groupes ainsi qu'avec les provinces et les territoires. Celui-ci mettra en place le premier conseil d'administration du CNR. Travailleuses et travailleurs de la route, personnel de la voirie, brigadiers, livreuses et livreurs, ces corps de métier constituent un sous-groupe vulnérable aux accidents routiers sur le lieu de travail, mais leur exposition est peu documentée. Une étude pilotée par l'INRS a permis d'identifier les causes et les facteurs des accidents de la route. Nous avons constaté que la distraction des conductrices et conducteurs, la conduite imprudente et la vitesse excessive étaient presque toujours en cause dans un accident de la route impliquant une travailleuse ou un travailleur piéton, explique la responsable de l'étude Marie-Soleil Cloutier. Près de la moitié de ces accidents ont lieu sur des rues commerciales. La région de Montréal est celle où on en recense le plus. L'équipe de recherche espère que leurs travaux permettront aux employeurs d'utiliser ces données à des fins de formation et de prévention pour les travailleuses et travailleurs piétons au Québec. Ciné Franco, une organisation caritative franco-ontarienne qui promeut l'héritage francophone par le cinéma, présente Histoire d'immigrants francophones. Rendez-vous sur le site de Ciné Franco à partir du 31 janvier et jusqu'au 7 février pour une programmation spéciale de 14 longs-métrages et 18 courts-métrages pour célébrer la diversité des histoires et des trajets de communautés francophones à travers le monde. Les films sont disponibles en ligne dans tout le Canada avec des sous-titres anglais. La Maison Dauphine, qui offre une formation d'aide-toilettage d'animaux, a annoncé le début de la partie pratique de sa 5e cohorte. Vous désirez faire toiletter votre animal et permettre aux étudiants et étudiantes de mettre en pratique leurs connaissances? Contactez La Dauphine via leur page Facebook et prenez rendez-vous. Les aides-toilettage ont hâte de chouchouter vos animaux domestiques. C'est ce qui complète cette édition. Au nom de toute l'équipe, passez une agréable journée à l'antenne de CKIA FM 88.3 et CKIAFM.org.
C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain. Ils remuent leur derrière en disant « Thank you very much, Monsieur Trenet. » On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour.
Bonjour tout le monde, je m'appelle Larry Hodgson et vous écoutez le Jardin par dessus sur les ondes de CKRFM et Facebook Live. Je suis dans mon sous-sol où tout est pas mal revenu parce que c'était avant, parce qu'il y a 2 semaines, on est en train de refaire le plancher. La semaine dernière, remettre les choses en place. Là, c'est pas mal de retour, comme ça devrait être. Donc, voilà, à ce niveau-là. C'est curieux parce qu'on voit encore de la lumière par la fenêtre. C'est à Québec, habituellement, à cette date-ci. On voit pas d'or, c'est couvert de neige. Mais cette année-ci, il y a moins de neige que d'habitude. La tempête de neige qui allait frapper, elle va frapper presque partout au Québec. Ça n'a pas trop touché la région de la capitale. Paraît-il qu'on est 10 cm. Une tombée de neige normale. Rien de très spécial. Une d'autres régions, je pense que Gatineau est le pire. Hein? Peut-être qu'ils ont beaucoup, beaucoup de neige. En tout cas, chez nous, c'était assez tranquille comme tempête. Mais au moins, ça donne un peu de neige. Et vous savez, plus qu'on a de neige l'hiver, plus qu'il y a de l'eau qui va rentrer dans la terre, et moins on aurait arrosé l'été. C'est que sur le climat, la neige, c'est une bonne chose. En plus, ça isole nos plantes, les protège contre le froid. Donc, vive la neige, tant que c'est pas plus que, quoi, plus que 2 mètres, c'est trop. Et en bas de 2 mètres, c'est parfait. C'est ce qu'il faut. Et voilà. Donc, un commentaire. Connexion difficile et ça a des images fixes. Je sais pas si Michel...
Malheureusement, on peut rien faire, c'est les joies d'Internet.
Ah. Ouvrez-vous. C'est comme ça. Et pourtant, je suis connecté directement. C'est pas à distance. Voilà. Bon, donc, on va essayer d'ouvrir pour les questions. Maintenant.
On va y aller avec Guylaine Bouchard. Parenthèse avant d'y aller avec la question de Mme Bouchard. Oui. Steve Gagnon nous dit que c'est que l'image est correcte chez lui. Donc, c'est probablement selon les coins et les vitesses d'Internet. Ceci dit, Mme Bouchard demande, en fait, écrit « Bonjour, j'ai un bégonia immense et un bégonia tigre. À quelle famille de bégonia appartiennent-ils? Dans votre livre, les bégonias nécessitent un bon arrosage, sauf les rets. J'ai peur de trop arroser. Attends, j'ai peur de trop arroser les miens. Je suis mêlé dans les bégonias.
Ben, d'abord, je vous comprends d'être mêlé dans les bégonias. N'oubliez pas, quand on parle de fumée de plantes, si je me souviens bien, 1400 espèces. Et là, d'innombrables hybrides. Donc, et ça appartient à différents groupes. Les bégonias rhizome ordinaires et les bégonias rex, c'est un sous-groupe. Il y a des bégonias à tiges dressées, les bégonias sempervirens et apparentés. En tout cas, ils contiennent plein de sortes. Et chaque variété a besoin de moins de soins, un peu différent. Et c'est normal. C'est comme toutes les plantes de la famille des chiens, des canidés. Le loup, le chien, le renard, ça n'a pas tous besoin des mêmes soins. Ben, c'est sûr qu'avec tant de bégonies, il y a des différences. Maintenant, les bégonies mentionnées par Mme Bouchard. Elle veut parler d'immense. Parce qu'une bégonie qui s'appelle immense, sans face, c'est son nom. C'est un vieil hybride il y a un siècle et demi à peu près. Donc, c'était grosse grosse feuille. Et les bégonies tigres, les deux sont des bégonias à rhizome. Qu'est-ce qui caractérise les bégonias à rhizome? C'est que, en plus d'avoir des racines normales, les racines en sol, elles ont une tige rampante ou même retombante s'il n'y a pas de peau, assez épaisse, qui court sur le sol, qui s'enracine en y touchant. Ça, c'est la caractéristique des bégonias à rhizome. Les deux, comme vous parlez, immense et tigre, sont des plantes faciles. Vraiment, il s'agit de les arroser, laisser presque sécher, arroser de nouveau, éclairage moyen, c'est bien correct. Pas des plantes qui causent des problèmes aux gens. L'un des traits des bégonias à rhizome, par contre, c'est que ça fleurit l'hiver, ce qui est un peu à l'envers de béco de bégonia. Donc, ça veut dire que ces plantes, à jour court, ces bégonias-là vont fleurir en moins de 12 heures de lumière par jour. Et les autres groupes de bégonias, non. C'est un groupe à part. En tout cas, ces vérités-là sont faciles. Éclairage moyen, comme je vais vous parler, soins ordinaires pour une plante intérieure, ça se multiplie par bouturage. où tu aurais des raisons. Puis on peut aussi faire des bouts de feuilles, même des morceaux de feuilles. On peut couper les feuilles en sections. Après, c'est la section de feuilles dans le terreau, et ça va donner aux plantes, éventuellement. Voilà.
Prochaine question de Don Tranfan. Tellement de questions ce matin que ça roule trop vite. Bonjour, M. Hodgson. Très heureuse de vous retrouver ce matin. J'aimerais remplacer les pots plastiques de 1 et 2 gallons de ma culture de ginkgo, par des pots en vannerie. Qu'en pensez-vous? Quel végétal peut-on cueillir au Québec pour le tissage? Merci beaucoup.
OK. Alors, moi, j'ai une suggestion à vous faire. Utilisez votre contenant en vannerie comme cache-pot plutôt que comme pot. Comme ça va avoir tendance à pourrir, on compte avec une terre humide, comme ça va avoir tendance à s'acheter très, très vite, vu qu'il y a beaucoup d'espace vert, ça ne fait pas des bons pots pour la culture des plantes. Et en plus, vous allez perdre votre pot. Comme je dis, ça va pourrir. On peut traiter, c'est sûr, mais éventuellement, ça ne durera pas très longtemps. Donc, je pense que ce serait mieux d'utiliser ça comme cache-pot. Et garder l'humidité essentiellement à l'intérieur du pot et mettre une soucoupe au fond du cache-pot pour attraper l'eau qui en coule quand on arrose un peu trop et se développe bien vivre. Quant à quel végétal qu'on peut utiliser au Québec pour le tissage, habituellement, ça se fait avec soit des saules ou encore des cornouillers, des arbres rouges. Et là, c'est les deux plantes qu'on utilise le plus pour la vannerie au Québec. Et je ne suis pas un expert sur le tissage. Moi, c'est plus la culture des plantes. Voilà.
Sarah Pilon, Savoie. Bonjour, M. Hodgson. Est-ce que le lupin est assez fort pour envahir un champ de mauvaises herbes si je sème à la volée?
Probablement pas. Il faut comprendre quelque chose. Une fois qu'un champ est là et qu'il y a un équilibre quelconque qui s'est installé, qu'on peut appeler mauvaises herbes ou mélange de graminées, plantes déjà mauvaises herbes, qui sait? C'était un genre d'équilibre. Ce n'est pas un équilibre parfait. Il y a des changements. Mais c'est très difficile pour une nouvelle plante de s'y installer, et encore plus si ça vient par semence. Donc, idéalement, vous enlèverez des champs, semez vos lupins à ces endroits-là, laissez-les pousser. Par la suite, si les conditions conviennent, les lupins peuvent se ressemer, et on le voit très souvent, ça dépend bien sûr où vous êtes. Le lupin, en général, le lupin qu'on connaît, Lupinus perennis, qui est en fait essentiellement une hybride, mais basée sur des espèces originaires d'Alaska. Donc, OK, c'est une plante de foin qui n'aime pas la chaleur. Donc, près de Montréal, le lupin ne vit pas très longtemps d'habitude. C'est une plante qui disparaît vite. Par contre, dans les régions plus fraîches, ça va très, très bien et ça peut se ressemer. Donc, à vous de juger, essayez si vous voulez, mais moi, j'enlèverai un espace, vider quelques mauvaises herbes, peu importe, semer là, et une fois que c'est établi, là, on verrait bien si la plante est capable de se reproduire ou pas. Voilà.
J'aimerais planter une haie brise-vue. Environ 250 pieds en longueur et à la mi-ombre dans un boisé. Est-ce que c'est possible? Que pensez-vous de l'épinette blanche ou de Norvège? Merci beaucoup.
OK, voilà. C'est possible, bien sûr. On utilise des haies brise-vent, brise-vent, vous dites, ou de brise-vent, parce que ça coupe le vent aussi, très souvent. Et souvent, c'est les épinettes, justement. Épinette blanche ou de Norvège, les deux, ça pourrait être intéressant. Ça dépend de ce que vous voulez cacher de vue et quelle hauteur, parce que les deux deviennent très, très grandes avec le temps. Mais on peut toujours couper la tête de temps en temps pour réduire leur dimension. Mais oui, ça peut se faire absolument. Moi, je dirais vers la moins chère, tout simplement. Les deux sont rustiques. C'est une question du coût plus que d'autre chose. Ah, j'entends plus Michel. Sans doute une distraction de son côté. Vous savez qu'il était à la maison, puis il arrive des choses des fois. Ça sent la porte ou qui sert. Écoutez, je vois une autre question ici. Chantal Gagné. Comment déménager en hiver les géraniums que nous avons entrés à l'automne? Oui, il fait très froid. Au revoir, Michel, de retour. J'ai vu. Il fait très froid. Et donc, ce n'est pas le temps pour déplacer les plantes sans protection à l'extérieur. Suggestion numéro un. Si vous allez déplacer les plantes et un véhicule chauffé, préchauffé même, et un véhicule préchauffé là, qui peut l'accueillir. Une fois que vous êtes. Et préparez vos plantes tout simplement. Mettez-les dans une boîte, mettez dans un sac et dans une boîte ou dans deux sacs. Donc, un espace d'air entre les deux sacs. Et avec ça, vous êtes capable de transporter sous moins 20, moins 30, tant que la plante ne reste pas dehors très, très longtemps. Et justement, si vous pouvez déjà chauffer, voilà. Vous avez juste quelques secondes, dans le fond, à l'extérieur, à l'arrivée, au départ et à l'arrivée. Et comme ça, on est capable de les transporter. Moi, j'ai déjà déménagé tout mon appartement au mois de janvier une fois. Des centaines de plantes. En tout cas, je n'ai pas perdu une seule directement. J'en ai perdu par la suite, parce que quand vous vivez dans une nouvelle place, vous ne connaissez pas l'éclairage encore. Et ça, ça a pris un certain temps. Mais le froid, non. Et pourtant, il faisait super froid ce joint-là. Je pense peut-être moins, je pense que c'est moins 17, quelque chose comme ça. C'est tout froid. Et je n'ai rien perdu. Et juste les plantes étaient toujours un double emballage, essentiellement.
On s'excuse. Pour certaines personnes, il semble qu'il y a des petits problèmes de son ou d'image. C'est malheureusement pas de notre ressort. Donc, on s'en excuse. Prochaine question, Éric Chaussé. J'ai semé des hibiscus sabarifa le 22 décembre. Rien n'a encore poussé. C'est normal ou les semences n'étaient tout simplement pas viables?
OK. La dernière fois que j'ai semé ça, c'était des semences que j'avais ramassées en Thaïlande. Et que ça fait longtemps. Et je ne me souviens pas de combien de temps que ça a pris. Et les semences étaient dures. Ce genre de semence qui est souvent lent à germer. Donc, au cas où, la prochaine fois, pensez d'abord, faites tremper les semences 24 heures dans l'eau tiède. Après 24 heures, regardez, si les graines ont calé au fond, ces graines-là sont viables. Si ça flotte toujours, c'est peut-être pas viable. Donc, donnez un deuxième pour ces graines-là, dans une deuxième session d'eau tiède 24 heures. Et là, les graines qui calent finalement sont quand même bonnes. Et après ça, vous semez. Là, les graines vont avoir été hydratées et les germinaux vont être meilleurs. L'hibiscus sabarifa, c'est un hibiscus qui est utilisé pour la boisson. Hein? On fait des boissons avec des fruits. Cette espèce-là, c'est une plante tropicale, vraiment tropicale. Elle pousse dans la région très, très chaude. Donc, probablement, si vous avez semé ça au mois de février, qu'est-ce que vous avez dit là? Parce que dès décembre, vous avez dit. On aurait fallu le mettre peut-être sur un tapis chauffant ou quelque chose comme ça. Parce que c'est frais dans nos maisons. On n'a pas le soleil d'été qui chauffe le jour. Donc, c'est peut-être ça le problème. Ça se peut que ce soit juste pas encore germé. 3 semaines, 4 semaines, c'est peut-être normal pour un hibiscus. Mais je ne connais pas le cas. Spécifique.
Steve Gagnon. Si mon terrain commence à s'enfoncer par endroits, est-ce un signe que le sol est en train de s'assécher en profondeur? Ça fait 16 ans que j'habite à la même place et le phénomène est apparu il y a un an. Il y a aussi beaucoup de glaise à Blainville.
OK. Moi, je pense que c'est quelqu'un de la ville. Moi, je suis tout à fait de la ville. Ils doivent savoir davantage qu'est-ce qui se passe. Parce que si ça se passe chez vous, ça se passe peut-être ailleurs. Alors, non, en fait, oui, ça peut être le terre qui est en train de s'assécher en profondeur, parce qu'une terre glaise contient énormément d'eau. Et quand ça perd l'eau, ça se condense. Donc, ça se peut que ce soit ça, et ce serait bien de voir si la ville ne connaît pas d'autres possibilités. Parce que, comme je ne connais pas spécifiquement la place, Et peut-être qu'ils savent quelque chose que moi, je ne sais pas. Moi, je pense que ce soit ça. Évidemment, si un bon neige cet hiver, un été d'arrosage de plus normal, peut-être que tout va revenir. Mais avec nos étés de plus en plus secs dans nos régions, dans votre région de moins, je pense que ça pourrait être un problème à l'avenir, à surveiller en tout cas.
Aiden Knight écrit « Bonjour, M. Hodgson. Mon jardin est en façade. Est-ce que de faire traiter contre les mauvaises herbes dans la pelouse autour du jardin par des professionnels peut être néfaste pour la santé lorsque je mangerai mes légumes? Est-ce qu'il y a des produits à éviter lorsque je choisis la compagnie de traitement de pelouse? »
Bon, ce qui arrive, c'est que en théorie, de nos jours, les pesticides synthétiques, et c'est quoi le terme qu'on utilisait, simplement pour l'embellissement, ont été bannis. Mais il y a une exception. Il y a un herbicide qui est resté, je ne sais pas pourquoi, c'est pas moi qui décide ces choses-là, qui est resté le dicamba. Et le dicamba, c'est strictement aux professionnels. Mais eux, ils peuvent l'utiliser partout, sauf sur les terrains d'église, d'école ou près des écoles. Et donc, ils continuent de mettre un herbicide toxique pour les plantes un peu partout. Est-ce que ça va causer des problèmes de santé si vous mangez des légumes? Non, parce que c'est une hormone, vous savez, les herbicides en question, ce sont des hormones végétales. Ce n'est pas vraiment le fait sur l'être humain. Mais si ça arrive sur vos légumes, ça va les tuer. Donc, et le problème avec le dicamba, c'est que c'est très facilement emporté par le vent. J'en sais quelque chose. J'ai deux voisins, chaque côté, qui font traiter le pelouse par des professionnels qui mettent le dicamba. Et tous les ans, certaines années, peut-être parce qu'il y avait du vent le joint où ils l'ont utilisé, j'ai plein de plantes qui meurent. C'est terrible. Tout en ligne. C'est comme les premiers sur le bord. Ça commence à s'enrouler. Vous savez, quand vous avez un herbicide hormonal comme ça, l'effet s'enroule. C'est ça qu'on voit. Donc, quand vous voyez ça, 2-3 jours après un traitement de pelouse, vous savez c'est quoi. Donc, si votre... Je ne sais pas si vous avez dit, si c'est une plante protégée surélevée, il y a moins de chances que ça rentre jusque-là. Ou encore, insister auprès de l'applicateur que vous ne voulez absolument aucun traitement d'herbicide quand ils vantent. Parce que c'est le problème. Ils ne sont pas supposés. Hein. Légalement, ils ne devraient pas les piquer lorsqu'ils vantent. En réalité, ils l'appliquent n'importe quand. Bon. Ou choisir la compagnie de traitement de pelouse. Vous pouvez trouver des compagnies de traitement de pelouse qui proposent des traitements biologiques. Le problème, c'est que souvent, ils l'annoncent, mais finalement, quand vous essayez de signer pour le biologique, ils posent des questions, puis ils vous repoussent, et finalement, si vous poussez trop, ils finissent par vous dire que finalement, ils n'offrent pas ce service-là. Ils l'annoncent pour vous embarquer dans le système de traitement, mais ils n'offrent pas finalement le traitement biologique. C'est que ça ne contrôle pas efficacement les mauvaises herbes. Et beaucoup de gens ne veulent pas avoir de mauvaises herbes dans la pelouse. Donc, à vous de décider qu'est-ce que vous faites. Moi, personnellement, le peu de pelouse qu'il y a chez moi, je laisse toutes les plantes vivre là. Aucun problème. Et certaines plantes ne doivent pas être tendues. Ça disparaît. D'autres plantes tournent très bien. Ça continue. Donc, moi, j'ai des graminées. J'ai trèfles. J'ai des violettes. J'ai plein de petites bulbes. J'ai plein d'autres plantes. C'est pas grave. Ce que je ne tolère pas, c'est les plantes piquantes. J'ai déjà eu, pas récemment, j'ai déjà eu quand même des chardons qui ont commencé à pousser. Et ça, par exemple, j'étais les enlever. J'ai pas mis d'herbicide. J'étais les enlever. Et après ça, je laisse faire. Ça me dérange pas. Chaque personne a une définition de pelouse. J'aime bien voir la mienne comme un pelouse biologique, ou un pelouse écologique, ou un pelouse durable. parce que tout ce que je fais, c'est tondre. Je ne fertilise pas, j'arrose pas, je ne fais que tondre. Et je ne tondre pas souvent non plus, en passant. Et voilà.
Donc, Manon Gosselin a dit, j'ai eu un cadeau, un broméliacé il y a un an. Je ne sais pas quelle variété. Elle fait environ 30 cm de haut. Feuillage vert, non panaché. Et elle a 3 bébés. Quand est le meilleur moment pour les séparer de la plante mère?
OK. Excusez-moi. Bon, avant de répondre à votre question spécifique, juste quelques points sur les i pour les broméliacées. Pour ceux qui ne connaissent pas ça. D'ailleurs, je vois qu'il y en a une de ma fenêtre, mais il y en a de moi. En tout cas, peu importe. Ce sont des plantes qui poussent en rosette, qui attrapent l'eau par le centre et qui font une tige florale qui peut durer des mois. Par contre, après la floraison, c'est fini. La plante mère ne fleurit plus. Elle va tranquillement mourir, mais elle peut mourir sur plusieurs années. Elle va plutôt faire des bébés. Et ces bébés le poussent au pied de la plante mère ou à côté de la plante mère. Et on peut les enlever. Moi, je calcule quand ils ont un tiers de la hauteur de la plante mère. Ils sont assez matures pour enlever. C'est juste, ils en font souvent. Juste tirer vers le bas. Et voilà, vous l'avez. Le bébé que vous remportez individuellement. Par contre, vous pouvez toujours aussi laisser vivre ensemble, faire une petite colonie. C'est à vous de décider comment vous les traitez. Les bébés vont fleurir, eux, pas la plante mère.
Sylvie Durette. L'image est en effet... Ah, oh, OK. Ça rapport au petit problème technique que les gens ont depuis le début de l'émission. On va y aller maintenant avec une autre question de Sarah Pilon, Savoie. J'ai un champ de mauvaises herbes d'environ 300 par 150 pieds. J'aimerais y mettre un pré-fleuri. Si j'utilise la méthode du bêchage sur le 1/5 de la zone au printemps pour semer à l'automne, est-ce qu'il y a des risques que le mauvais herbe du 4/5 de la zone non bâchée envahisse mon petit champ fleuri? La zone est trop grande pour faire la technique en un an. Je mettrai une bâche sur les autres zones les années subséquentes.
Ben, écoutez, vous pouvez très bien faire ça. Et vraiment, l'automne, c'est toujours la meilleure saison pour semer un pelouse fleurie. C'est la saison parce que la plupart des plantes qui le composent exigent un hiver froid avant que les graines germent. Par contre, ça n'éliminerait pas tout ce que vous pouvez appeler mauvaises herbes. Ça va tuer toutes les plantes. Donc, s'il y a du chardon, s'il y a des pissenlits, des choses vivantes, oui, un an sans lumière, sans mort, ces plantes-là, c'est fini. Mais il reste quand même, les graines sont toujours là. Donc, il peut avoir une germination. Donc, quand ça va germer, vous allez avoir quand même certaines plantes du passé qui vont pousser, mais beaucoup de plantes de nouveau lot. Et évidemment, une pré-fleurie, c'est un mélange de plantes. Donc, ça ne paierait pas trop s'il y a quelques plantes qui n'étaient pas prévues nécessairement. Enfin, c'est ça pour voir. N'oubliez pas de choisir un mélange de semences qui contient à la fois des annuelles et des vivaces, parce que le problème des pré-fleuries avec les annuelles, c'est que ça va très bien la première année. C'est des plantes qui fleurissent rapidement. Mais par la suite, elles ont des difficultés à se ressemer parce que les espèces vivaces qui viennent d'ailleurs, soit des graminées sauvages, des plantes sauvages, mais des variétés sauvages, finissent par gagner du terrain et ça ne laisse pas de place aux annuelles. Donc, si vous commencez avec, dès le départ, mélange d'annuelles, annuelles pour la première année, vivaces pour les années suivantes, vous aurez plus de chances d'avoir une pré-fleurie qui reste intéressante pendant très longtemps. Voilà.
Mu Saint-Onge. Mon ami aimerait partir un potager sur une surface gazonnée. Si elle procède avec votre méthode, papier journal, terre, compost, pourra-t-elle planter n'importe quoi la première année? Avez-vous d'autres conseils comment procéder et à quelle période débuter?
Bon, d'abord, elle peut débuter dès que la neige fond, hein? C'est pas un problème puisque ne toucherait pas la terre. et le mettre dans le papier journal, et dès ça va couper les plantes qui étaient là avant, le gazon, ou qui sait qu'est-ce qu'il y avait dans la surface gazonneuse, peut-être qu'il y avait une trace ou peu importe. Mais le papier journal va les empêcher de pousser, et pourtant le papier journal laisse les microbes bénéfiques passer. Donc ça, c'est bien. Et on couvre avec une 30 cm de bonne terre, et voilà. Donc, est-ce qu'un peu que tu avais n'importe quoi la première année? Oui, mais. Et le mais, c'est que 30 cm, c'est pas beaucoup de terre pour certains légumes. Vous comprenez que les longues carottes, ou quelque chose comme l'asperge avec les longues racines, ne pourraient pas faire des racines très longues tant que le papier journal est encore là. Donc, ça va être surtout pour la deuxième année quand le papier journal va être décomposé. Et c'est les légumes plus longs, à racines longues, vont profiter. Donc, la première année, elle pourrait se limiter aux légumes à racines courtes. Ou même des carottes et des variétés courtes, ou on peut les récolter plus jeunes aussi. Et des betteraves qui ne sont pas longues ou rondes. On pourrait facilement trouver dans n'importe quel groupe de plantes des plantes qui conviennent. Et la deuxième année, par contre, ce qui va arriver, c'est que le gazon, qui était couvert par le papier journal, va être mort maintenant, décomposé, et très, très riche d'ailleurs. Le papier journal va être décomposé. Et là, les racines, comme vous savez, la deuxième année, peuvent descendre du haut jusque dans le sol d'origine. Et là, ça va être plus facile.
Sonia Desrosiers, j'ai un patia en pot et je me demandais si j'étais mieux de tout séparer, comme chaque tige est une plante en soi, ou je laisse en pot plein et je transplante dans un plus grand pot prochainement.
OK. Là, j'ai compris pitaya. Pitaya, c'est une fruit tropicale, Michel. Et c'est un cactus avec des longues, longues tiges aplaties ou carrées qui ressemblent presque à des feuilles des fois. Je crois donc que son dérosier aurait sémé. Alors, parce que quand on achète un pitaya, le fruit du dragon, qu'on voit dans les magasins, c'est rouge ou des fois jaune, on voit plein de petites graines noires à l'intérieur. Si vous les semez, ça va vous donner des bébés cactus, bien sûr. Mais, vous avez bien raison, c'est beaucoup, hein. Ça va être tout petit, ça va grossir. Ça va pas juste grossir, hein. Ça va devenir énorme. Donc oui, moi, je vais mettre ça chacun dans son pot individuel pour le bénéfice de toutes les plantes. N'oubliez pas que vous allez avoir peut-être 150 plantes si vous faites ça. Vous êtes mieux de vous choisir deux ou trois, pas plus, pour la suite de l'expérience, parce que vous allez voir, ça devient énorme, et vraiment énorme, le cactus pitaya.
Hélène Cholette Lacasse. Bon. Pardon. Excusez-moi. J'ai une haie de 35 cèdres smaragd dont la tête ont été très abîmées par les hivers. Le haut est complètement mort, mais le bas est correct. Que devrais-je faire? Couper les têtes et garder les touffes du bas?
Oui, ça c'est une question embêtante. Évidemment, il faudrait voir, mais c'est sûr que si vous coupez juste en haut, de la section verte, ça va repousser. Pas vite, nécessairement. Mais ça va repousser peu à peu. Je ne sais pas pourquoi le haut est mort, c'est ça qui m'inquiète. Mais on pourrait donc récupérer la hauteur, mais ça va prendre des années, probablement. Il faut couper cette partie-là. Si c'est mort, c'est mort. Hein. Les cèdres, les tuyaux, je devrais dire, ça ne repousse pas quand on taille. Quand les parties supérieures, les parties dans le bois brun sont mortes, c'est fini. Ça ne repousse pas de là. Il faut que ça repousse une partie verte. Donc, on peut couper juste en haut de ça. Mais la première année, ce ne sera probablement pas beau. Deuxième année, peut-être plus acceptable. Et éventuellement, ça peut récupérer.
Sylvie Durette, mon laurier rose entreposé au soleil dans mon salon pour l'hiver est actuellement en fleur. Quel bonheur!
Ah, ben oui, et c'est tellement une belle plante. C'est rare que ça fleurisse en plein hiver, mais profitez-en.
Sylvie Charette, que pensez-vous de la farine de gluten de maïs?
Bon, pour la cuisine ou le jardinage? Bon, écoutez, la farine de gluten de maïs, c'est un produit utilisé en cuisine, c'est vrai, mais c'est aussi un herbicide et c'est aussi un produit qui peut servir d'engrais. Je m'excuse. Donc, on le vend souvent comme herbicide naturel. Mais ce n'est pas un produit qui tue les mauvaises herbes sans germination. Donc, c'est un produit qu'on implique une certaine épaisseur. Je ne sais pas combien de centimètres, peut-être 1,5. Ça, il faut regarder l'étiquette. Et on applique au début de la saison, au tout début de la saison, juste avant que la saison commence à verdir. Et ça empêche les graines de mauvaises herbes de germer. On va souvent l'utiliser lorsqu'on sait qu'on a un problème avec une plante annuelle dans le gazon qui se ressème constamment. Donc, ça, c'est une possibilité-là. Par contre, même quand on n'a pas de problème de mauvaises herbes particulièrement, ça reste quand même un produit naturel qui va se décomposer et enrichir le sol et qui contient quand même passablement d'azote. Donc, ça va faire effet d'engrais. Donc, il faut juste penser que ce produit-là, il ne faut pas l'appliquer sur les graines qu'on va voir germer. Parce que ça va avoir l'effet de réprimer les plantes qui germent. Mais après la germination, c'est bénéfique, le contraire.
Denis Hébert, est-il vrai que pour les piments forts, il faut partir des plants plutôt que pour les poivrons doux? Je suis en zone 4 et je n'utilise pas de tapis chauffant.
Oui et non. Non, il faut regarder voir. L'idéal, ce serait de voir dans un catalogue ou encore site web de fournisseur et d'aller voir qu'est-ce que c'est qui donne comme date de maturation. Parce que les piments, certains peuvent mûrir en aussi peu que 55 jours et d'autres, c'est 130 ou 150. 130, 150, ça n'a aucun bon sens au Québec, ça ne marchera pas. D'ailleurs, les dates ne comptent pas de la date où on ne part. C'est théoriquement du moment où on repique. Donc, imaginez 130 jours de belle chaleur, il n'y a pas ici. Mais, donc, les gens qui ne réussissent pas disent toujours ça, ben là, on jouait de les partir plus tôt. Mais ça ne changerait pas grand-chose. Partir trop tôt, là, plutôt, ça vous donne des plantes plus gros, mais qui sont maganées, qui sont brisées. On ne peut pas vraiment donner la qualité parfaite de lumière et les conditions dans la maison. En fait, notre mieux. Mais les plantes sont un peu stressées. C'est ça qu'on essaie de sortir nos plantes quand ils sont encore jeunes pour récupérer à l'extérieur. Et ça, ça donne des bons résultats. Ça ne donne pas grand-chose de partir plus tôt. Ça va juste donner des plantes fatiguées qui ne donneront pas autant de fleurs ou de fruits. Vous êtes beaucoup mieux de partir au même moment que les autres, mais de choisir un piment qui est réputé de prendre peut-être 65 ou 70 jours habituellement, on est capable de vivre avec ça. Ça pourrait marcher peut-être. Même en zone 4. 65 jours, vous devrez être capable sans problème.
Question de Tinto Tozzi. Est-ce que vous pensez qu'il faut arracher les rosiers rustiques car j'entends que maintenant, on les traite de plantes envahissantes et exotiques?
Oh, ben non. Écoutez, les rosiers rustiques, c'est une classe de plantes. Ça comprend toutes sortes de choses, incluant les rosiers indigènes. Les rosiers du Québec, il y en a plusieurs espèces, sont indigènes. On n'arrache pas des plantes de chez nous. Il y a un rosier, peut-être deux, trois, okay? Surtout un rosier qui devient envahissant. C'est le rosier rugueux qu'on va trouver le long de les côtes de Gaspésie, qui n'est pas indigène, qui est introduit, mais ça ne deviendra pas envahissant de ce moment n'importe où. C'est parce que les conditions sont particulièrement adaptées à cette plante-là. Donc, on ne peut pas faire des règles. La plupart des rosiers rustiques n'iront à nulle part, vraiment à nulle part. Vous les plantez, ils vont rester chez vous, jamais ça va se ressembler à nulle part. Un autre qui peut s'échapper, c'est le rosier glauque, qu'on appelle rosier à feuilles rouges, qui lui aussi peut se, ressonner dans des conditions un peu moins côtières, si on veut. Mais c'est quand même pas une plante super envahissante non plus. Alors moi, je dirais, au moins que vous me parlez, parce que je ne sais pas où vous êtes, là, mais moi, je dirais au moins que vous soyez dans un milieu côtière, Gaspésie ou similaire, c'est pas un problème. Ça ne deviendrait pas, il n'y a peut-être pas de variétés qui vont devenir envahissantes. Et la plupart des variétés vendues en pépinière, les ténors de cultivars, ce n'est même pas un problème. C'est juste des variétés proches de la forme sauvage qui peuvent s'échapper.
Sonia Desrosiers. Oui, en effet, j'ai vu les plantes matures de Pitaya. D'où ma question. Ah, ça va trop vite. D'où ma question. Ah, j'ai commencé un test avec un plant et un tuteur pour le faire grimper. J'ai très hâte de voir, de les voir évoluer.
Oui, oh, c'est fascinant ces plantes-là. C'est ça que ça prend vraiment pas à part. C'est des plantes qui poussent en hauteur. Au début, on dirait un cactus cierge. Ça va vite se voir haut au début. Mais à un moment donné, commence à faire des branches et commence à aller sur le côté, s'il n'est pas de tuteur. Et elles ont des racines adhérentes, racines aériennes adhérentes, qui collent lorsqu'il y a une surface, qui peuvent coller sur un support. Donc, ça peut coller sur un mur. J'en avais un déjà, pas un pitaya, mais un poche parent, qui poussait sur le mur de ma verrière. J'ai fini par l'enlever, puis ça prenait beaucoup trop de place. Mais à vous décider. Moi, je soupçonne qu'après sélectionner ou couper le nombre un peu, c'est très gros, hein?
Manon Bernier, je veux jardiner des légumes pardon, bio. Est-ce qu'il y a des semences non indiquées bio?
Des semences non indiquées bio. Ça dépend quel catalogue. Allez voir sur les sites. Si le catalogue ne parle nulle part de semences bio, il n'y a rien de bio là. Voilà. Par contre, si le catalogue parle de semences bio et offre des semences bio, soit qu'ils disent au début, et c'est quoi des semences bio, ou encore, vous avez les deux. Plus le catalogue offre et forme ordinaire, forme bio. À vous de choisir dans ce cas-là. En général, il y a quelque chose d'écrit, absolument.
Steve Gagnon, pour protéger les rives d'un terrain au bord d'un lac, vous suggérez quoi? Il faudrait que cela ne devienne pas trop grand pour boucher la vue.
Bon, là, ça, il y a quand même beaucoup de possibilités. Évidemment, je ne connais pas la situation non plus, parce que souvent, la maison est plus haute que le lac. Donc, ça peut aller plus que 40 cm de hauteur, dans ce cas-là. Parmi les plantes qui vont bien, il y a plusieurs graminées qui peuvent être intéressantes, parce qu'on va chercher des plantes avec de longues racines. C'est ça que je parle de ces plantes-là. Et aussi certaines cornouillées, comme le cornouiller rouge, qui est stolonifère, qui s'étend, et ça aussi, ça va retenir. Vous avez toute une série d'autres plantes. Moi, je suggère de contacter votre municipalité, voir qu'est-ce qu'ils ont, parce qu'il y a des ressources disponibles. Peut-être que vous pouvez même avoir des plants gratuitement au printemps. Moi, je verrai avec ma ville, voir qu'est-ce que c'est qu'ils offrent. Et sinon, il y a des listes de plantes sur l'Internet. Il s'agit de gérer dans ce cas-là juger la hauteur de la plante, voir si ça vous convient.
Jocelyn Engelhardt, est-ce trop tôt pour commander nos semences? Avez-vous une suggestion de bons producteurs de semences bio? Merci.
OK, non, c'est pas trop tôt pour commander. C'est pas le moment parfait. Surtout que depuis 2 ans, les semenciers sont dévalisés. Ils sont inondés, tellement de commandes, et des variétés qui sortent rapidement. Donc, allez-y comme vous pouvez. Une sélection de producteurs de semences bio. La plupart des semenciers du Québec, des petits, là, la plupart sont bio. Mais il s'agit, ils vont l'annoncer. Je pense, Petit Potager de Catherine, je pense aussi à... Oh, j'ai plusieurs à ma tête, et n'en vient pas l'esprit. Allez voir sur le site web de Jardin Paresseux. C'est marqué fournisseur. Et là, vous allez voir les catalogues avec plein de catalogues locaux qui vont vous donner des plantes probablement biologiques. La plupart des des producteurs du Québec, encore une fois, de semences, c'est des produits biologiques ou au moins qui ont des semences qui n'ont pas été traitées.
Myriane Majot, est-ce que la stratification double est essentielle pour des graines de sureau et est-ce que nous devons faire une scarification?
Ça, c'est le genre de choses où il faudrait chaque fois que je fasse des recherches. Et d'ailleurs, vous savez, quand j'ai écrit mon livre, c'est semences, vous savez, ça vient d'où? C'était mes notes. Ça prenait tellement de notes, constamment des notes, et je ne me rappelais jamais de ce que j'avais fait l'année précédente. Et que j'ai pris des notes. C'est comme ça que j'ai bâti mon livre. Là, je ne me souviens pas spécifiquement pour les zéros. Probablement, ça prendrait au moins un traitement au foie. Double stratification, ça se peut bien. Parce que double stratification, ça veut dire d'habitude qu'on fait un premier traitement au foie, on expose à la chaleur un certain temps, on les expose au foie une deuxième fois, et après ça, ça commence à se germer. Il y en a pas mal d'arbustes et d'arbres qui vivent sous ce régime-là. Scarification, ce serait difficile de scarifier. Hein? Ça, au moins, les graines sont tout petites pour le sirop. Ça, c'est pas évident de scarifier. Traitement au foie, probablement, c'est mieux.
Sylvie Lalonde, j'ai un carré de fraisier Fort Laramie, ultra productif et dont j'ai perdu le contrôle. Il est très fourni et je ne sais plus différencier les stolons, des plants en mer. Le printemps venu, comment puis-je faire le ménage afin que chaque plant ait son espace vital et donne un bon rendement?
Moi, je vous suggère de vous mettre sur un petit banc, pour ça prendre du temps, asseyez-vous, puis commencez à arracher. Alors, une plante sur deux au moins. Deux plantes sur trois, ou quatre plantes sur cinq, je ne sais pas, la densité. Mais il faut dégager en premier plan, donner au moins minimum 30 cm pour pousser. Et quand vous êtes rendu au deuxième plan, dégager et continuer. Et là, vous allez finir par le faire, pour avoir cette réduction. Parce que sinon, vous savez, les fraisiers, c'est merveilleux, mais on perd vite le contrôle. Vous l'avez découvert.
Sonia Desrosiers, j'ai une plante araignée qui a énormément de bébés. Du genre que les bébés ont des bébés. Plusieurs d'entre eux même ont de bonnes racines aériennes. Ce serait mieux pour la plante mère de faire une coupe de cheveux ou je la laisse aller. Elle a l'air en forme, mais j'ai peur qu'elle finisse par se fatiguer.
Bon, écoutez, c'est certain que supporter toute une famille comme ça, parce que essentiellement, c'est des bébés et des bébés de ces bébés. Puis ça arrive, hein, cette plante araignée. Dans la nature, cette plante-là pousse au sol et les stolons courent tout autour de la plante mère. Ça touche au sol et les bébés poussent à côté, pas en bas, mais à côté. Et encore plus loin. C'est une plante tapissante. On peut l'utiliser comme plante couvre-sol dans les pays chauds. Donc, c'est ce que la plante fait d'habitude. Là, vous avez un seul plant. J'exagère. Vous avez probablement plusieurs plants parce que plante araignée ne pousse jamais seul. Ça se divise toujours au pied. En tout cas, vous avez un groupe de plantes, une touffe de plantes au centre et tous les bébés dépendent de ces plantes-là. Par contre, si les plantes ont l'air bien, il ne faut pas s'inquiéter. C'est pas une plante difficile. C'est une plante de misère, si on veut. On peut le négliger, ça revient bien, ça va bien. Si vous voyez que les plantes mères commencent à avoir l'air jaunie ou vert plus pâle, là, c'est peut-être temps de penser de rempoter, diviser, couper. Mais on peut laisser faire pendant des années. Après tout, si on cultive les plantes araignées, c'est pour voir des bébés qui retombent. Donc, aussi bien de profiter de ce qu'elle fait, le mieux.
Sylvie Brousseau. Je pense à une haie de bleuet en avant de ma maison. Est-ce une bonne idée?
S'il n'y a pas de neige lancée par les souffleuses, oui. Pourquoi pas? C'est tout un mystère pour moi. Pourquoi on plante des cèdres, des hêtres, pas des hêtres, des cèdres, des tuyas, comme haies alors que ça ne donne absolument rien, alors qu'on pourrait avoir des bleuets, bleuetiers et avoir donc et des belles fleurs, et des fruits comestibles, et une telle coloration rouge l'automne. Wow, il me semble que c'est parfait, ça. Donc oui, vous pouvez le faire. Sauf, encore une fois, la neige lancée par les souffleuses peut briser. Donc, je ne la mettrai pas trop près du chemin. Il reste quand même que le sol doit être acide. En général, les sols au Québec, pour la plupart des places, sont déjà naturellement acides. Donc, ce n'est pas un gros problème. Mais si vous êtes dans un des rares endroits où le sol est plutôt alcalin, ça, il faudrait modifier le pH du sol avant de commencer.
Je vais te laisser aller avec une question par courriel, Larry.
OK, merci beaucoup. OK. OK, j'ai une question ici de Annick. Elle me dit, en récoltant mes graines de brocoli, je m'aperçois qu'elles ressemblent étrangement aux quelques plantes de colza et canola qui ont poussé par un rang tout près. Est-ce possible que cette horreur OGM ait contaminé mes brocolis? Non. Il est normal, d'ailleurs, que le brocoli et le colza, ou le canola, se ressemblent. Les deux sont de la même famille. C'est des familles des cruciféracées. Les crucifères qu'on appelait, maintenant, ça s'appelle ça des brassicacées. Mais peu importe. C'est la même famille de plantes. Elles ont tous une capsule de graines similaires. Ça ne veut pas dire que les deux se croisent facilement. Le colza ou canola, qui est une forme de colza, mais avec des huiles moins toxiques pour l'être humain. Bon. Ces plantes-là ne se croisent pas facilement avec les choux. Le brocoli est un chou. Je ne dis pas qu'on ne peut pas le forcer. En laboratoire, peut-être. Mais dans la nature, non. Votre brocoli va se croiser peut-être avec un chou, avec un chou-fleur, avec une kale, mais pas avec un colza. Ou une... C'est des proches parents, mais pas si proches que ça. Donc, moi, je ne m'inquiéterais pas. Et même si oui, vous avez un plant qui était moitié colza et moitié brocoli, donc là, vous n'aurez pas envie de peut-être le manger, ça ne ressemblerait pas à un brocoli. Il n'y a pas de... Ce n'est pas garanti que le gène OGM ait été hérité non plus. Donc, voilà.
J'ai lu quelque part que les cygnoniums sont des grimpantes. Est-ce vrai?
Cygnoniums, oui, absolument. C'est que la plante, c'est une plante intérieure. On la connaît surtout par ses feuilles en forme de type de flèche. C'est une plante de la famille des Araceae. Donc, on proche parent de philodendron. Mais normalement, quand on l'achète, la plante est dans un pousseur sans touffe. Des petites feuilles en forme de tête de flèche. Et au début, ça reste comme ça. Mais après quelques temps, la rosette d'origine sent qu'elle commence à s'allonger. Et là, une longue tige qui va sortir avec des feuilles beaucoup plus espacées. Et vous allez voir que quand ça arrive, la feuille change de forme aussi. C'est une des caractéristiques des ingoniums que les feuilles changent en mûrissant. Donc, ce qui est triangulaire deviendra découpé. Ils vont être trois lobes, puis après ça, 5, 7, 9, 11. C'est fini pour faire une feuille à peu près comme une main, si on veut. Bien divisée. Donc, oui, ça devient une plante grimpante, même si ça commence pas comme ça. Mais ça devient ça éventuellement. Donc, pour le prévenir, si vous voulez pas, quand vous voyez que la tige longue commence à sortir, coupez la base. Ça va forcer la plante de repousser du pied. Ça va avoir prendre sa forme juvénile parce que la forme grimpante est la forme adulte. Et vous pouvez la forcer à rester juvénile toute sa vie. Puis si vous voulez la voir grimper, là, il va fournir un support quelconque.
Jocelyne Engelhardt, avez-vous une suggestion pour les herbes aromatiques vivaces comme couvre-sol?
Ben, il y a l'aspérule odorante, qui est un excellent couvre-sol, très facile à cultiver, zone 3, sans problème, donc rusticité est là, donc allez-y avec ça. Il y a également J'essaie de penser à d'autres noms. En tout cas, malheureusement, il ne meurt pas d'autres. Ben, évidemment, le mal qui peut devenir un couvre-sol, mais peut-être un peu trop envahissant pour ça. Mais il y en a plusieurs. Oh. Il y a un autre. Oh, l'Oregon. L'Oregon fait un excellent couvre-sol. Très beau, parfumé, belle fleur, intéressante. Elle se ressemble un peu trop, mais elle fait un excellent couvre-sol. La plupart des autres n'ont pas de bon couvre-sol, sont trop pas assez permanentes, d'abord parce que plusieurs sont annuelles ou vivotent un peu sur notre climat. Et d'autres restent à la place, même si elles sont diverses. Donc moi, je vais rester deux-là. L'Oregon, ça serait un, et l'autre, ça serait la spirule odorante. C'est là que je vois surtout.
Possiblement la dernière question. Denise Bonneville, mon mandevier est en dormance présentement. Quand devrais-je commencer à lui donner de l'engrais?
On donne l'engrais quand les plantes poussent. Donc, s'il est en dormance, c'est sûr que ce n'est pas le temps. Il faut attendre. D'ailleurs, ce n'est pas une bonne idée de l'obliger de commencer à pousser à cette date-ci. Les jours sont encore trop courts. Disons, mi-février, fin février, si vous voyez quand commence à pousser, les jours sont plus longs et vont bientôt 12 heures, vous pouvez peut-être faire. Moi, je vais tendance à dire, en temps normal, j'attendrai qu'on soit vraiment au printemps avant de faire féliser et que la plante ait commencé à repousser.
Donc, comme je le disais il y a deux instants, on est rendu à la fin de l'émission.
OK. Oh, c'est la fin de l'émission? Oh oui, c'est
ça. Eh oui, il est déjà 11 heures.
Oh, nous allons passer vite. OK, ben. Bonjour à tout le monde. J'espère que l'émission vous est plu. On va se retrouver la semaine prochaine, toujours à la même heure, 10 heures. Et je vous invite à visiter mon site web à www.joanneperreçu.com. Et merci, comme toujours, Michel, qui s'est occupé de toutes les techniques, et aussi à Sekaya et Marlène Bordeleau, qui est derrière la scène, qui s'occupe des contacts entre les deux. Merci. Bon jardinage à tous.
C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain. Ils remuent leur derrière en me disant « Thank you very much, Monsieur Trenet. » On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi, je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon. Papa, c'est un jardin.
Vous écoutez CKIA 88.3, Radio Urbaine.
Pour tout savoir sur la programmation de CKIA, pour être au courant des événements culturels et communautaires de Québec, visitez le ckiafm.org ou branchez-vous sur Facebook ou Twitter. Vous écoutez CKIA 88.3 Radio Urbaine.
Pour connaître les enjeux et les avenues possibles en coopération internationale, pour entendre les acteurs régionaux, leurs actions, leurs préoccupations, écoutez Solidarité Québec-Monde tous les lundis de 17h à 18h sur les ondes de Sequoia 88.3.
C'est maintenant le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel contre la COVID-19. Allez sur québec.ca/vaccin-COVID pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Pour bien vous protéger contre la COVID-19 et ses variants, vous devez recevoir la dose de rappel et continuer de respecter la distanciation, de porter le masque et de laver vos mains. La dose de rappel, un moyen de nous protéger plus longtemps. Un message du gouvernement du Québec.
Bonjour, ici Aude Malaré. La mise sur pied du Conseil national de réconciliation, ou CNR, est l'une des mesures prises par le gouvernement du Canada pour promouvoir la réconciliation. Selon Relations Couronnes Autochtones et Affaires du Nord-Canada, il s'agit d'une priorité claire des partenaires autochtones. C'est pourquoi le mandat de base du CNR sera de veiller à ce que le gouvernement s'acquitte de sa responsabilité de réconciliation avec les peuples autochtones. À la suite de la réunion inaugurale,